c'est très mauvais. Voilà, exactement, nous le reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 36. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, jeux vidéo, séries. Sauf que parfois, on a des conditions un peu spéciales. C'est quelques fois où on se rencontre dans l'année, donc c'est un épisode en live. Et je suis Daniel Andreev, et de l'autre côté du bureau, et non pas de l'autre côté des 10 000 km qui nous séparent d'habitude, se trouve Benjamin François, aka Quix. Hello Benjamin, comment ça va? Je te dis ça en te regardant dans les yeux.
En se regardant dans les yeux, c'est beau. Bonjour Daniel, salut les auditeurs. Tout à l'heure, quand j'ai annoncé qu'on allait enregistrer un épisode tous les deux en se regardant le bord des yeux, on m'a dit « Mais vous pervertissez le concept, parce que le concept c'est 9000 km !» Et c'est vrai que c'est des conditions un peu particulières, on fait un petit peu... Voilà, c'est un épisode spécial, on fait un peu mentir le concept, mais bon, c'est pour
non, le meilleur. Non, c'est parce que, surtout parce que tu es là.
Je suis là, j'ai monté des billys.
Tu as monté des billys chez moi, tu as surtout arrosé tes soirées avec tes amis.
J'ai eu des soirées assez arrosées, c'est vrai. Ma consommation de breuvage sous forme liquide.
Bon, alors.
C'est comme ça, les breuvages, généralement.
On pervertit le concept, mais on va un petit peu faire comme d'habitude. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine?
Alors, cette semaine, je me suis fait incruster par un certain Daniel Andreev à une projection d'une comédie française. Comme c'est un peu ta marotte.
C'est un peu notre tradition aussi.
C'est un peu la tradition. À chaque fois que je revenais, Daniel m'emmenait voir un film généralement très pourri. Et là encore, on a un peu fait mentir la tradition puisque c'était une comédie française qui nous a bien fait marrer. Et qui était plutôt bien, hein.
On a bien rigolé.
C'était donc à bras ouverts. Non, c'est pas vrai. C'était pas celle-là.
Je le vois ce soir.
Je le vois ce soir. Ouais. Eh bien, bon courage pour ce soir. Je ne savais absolument pas ce que j'allais voir. Et Daniel m'a dit, viens, je t'emmène, je te fais rentrer à la Projo Press. Il n'y a pas de problème.
Tu es officiellement le correspondant de Super Ciné Battle.
Voilà, exactement.
À LA.
Aux États-Unis. Et nous sommes donc allés voir Problemos, de et avec Eric Judor. Et donc je ne savais, en rentrant dans la salle, pas du tout ce qu'on allait voir, ni de qui c'était. Quand j'ai vu le nom Eric Judor, j'ai eu très peur parce que je n'ai pas du tout accroché à Platane. Je suis passé à côté. J'ai pas du tout adhéré à l'humour de Platane. Je sais pas si toi tu l'avais vu Platane.
J'ai vu un tout petit peu.
La série, un tout petit peu. T'as pas adhéré plus que ça?
Not my thing.
Mais je sais que c'est une série à laquelle certains vouent un certain culte parce que bah oui, apparemment quand tu rentres dans l'univers, c'est délirant et c'est très bien. Moi Platane, j'étais passé à côté, donc j'ai eu peur. Et Problemos, bah, nous a bien fait marrer.
On a rigolé bien, on a vraiment bien rigolé. C'est ça qui est assez incroyable.
Et je le dis à tous les gens que j'ai pu voir depuis qu'on a vu le film, que en fait, non, c'est bien, il faut y aller. Je ne sais même pas quand ça sort. Enfin, j'ai aucune info.
Ça sort début mai.
Début mai.
Ah, sortie un peu avancée.
Ça sort en même temps que Get Out. Je vous conseillerais d'aller voir Get Out d'abord, quand même.
Ça sort avant le Festival de Cannes, surtout.
Oh là là, attention. Ouais. Ah oui, grosses attentes, peut-être.
Non, mais tu sais, en fait, il y a des comédies françaises tout le temps, sauf pendant le Festival de Cannes, où là, tout d'un coup, on sait pas ce qui se passe.
Serious business. On arrête de faire des comédies.
On arrête de rigoler, quoi.
Est-ce qu'on parle un peu de ce que raconte Problemos?
C'est l'histoire d'un mec qui accompagne sa femme et son enfant dans une tribu de beatnik.
Bah, en gros, c'est des zadistes pour moi. C'est une bande de hippies qui s'oppose à la construction d'un parc aquatique. Et en fait, on va absolument rien révéler de plus parce qu'il y a un twist qui se déroule genre au tiers du film. Et ça part dans une direction complètement barrée et qui est très drôle au final. Moi, je trouve que c'était une belle prise de risque.
Eric Judor joue bien.
Eric Judor, qui est l'acteur le plus connu du film, il n'y a pas le festival de caméo qu'aurait pu saouler. Il a fait son truc. Ça se tient du début à la fin, mais ça se tient tout en étant absurde. C'est ça qui est formidable.
Ouais. Il y a des petits passages à vide au milieu, mais...
Mais ça se tient. Enfin, voilà.
Et surtout, en fait, on a bien rigolé.
On s'est jamais ennuyé, en fait.
Il y a vraiment des bonnes vannes et... Et par contre, faut souligner un truc, c'est qu'on était un peu les seuls dans la salle à rigoler.
Oui, il y avait beaucoup de monde qui rigolait dans la salle. Il y a eu des vannes où quand même la salle s'est assez esclaffée, mais il y en a certaines où c'était surtout nous. Il faut l'avouer.
Je veux juste te dire, sans spoiler, que la première fois qu'il y a sa fille, elle veut pas lui filer son iPad, elle veut pas rendre son iPad, et là il fait « Merde !» Et ça fait un écho dans toute la vallée du Vercors,
je sais pas où ils sont,
ça fait un énorme écho « Merde !» Et genre... J'étais plié de rire à ce moment-là.
Toi, t'aimes bien quand on maltraite les enfants dans les comédies.
J'aime bien la cruauté sur les enfants, je pense que c'est un tabou.
C'est un ressort comique qui fonctionne. Moi, je t'avoue qu'il y a un autre enfant, et à un moment, je m'attendais à ce qu'il lui colle une patate. Et bon, je ne sais pas révéler si ça arrive ou non. C'est vrai que la brutalité sur les enfants... Ouais. C'est un ressort comique qui fonctionne.
En tout cas, chez nous.
Nous sommes des monstres.
Voilà.
Bref, toujours est-il que voilà, Problemos, et ça se moque gentiment de tout ce côté altermondialiste, mais sans sombrer dans l'humour de droite, il est très très de clodo et de dépravé. Il y a
vraiment. Ah non, c'est pas une vision Christian Clavier du truc.
Voilà, c'est oui, évidemment, on en rit, mais on en rit de manière, je vais pas dire bienveillante, parce que ils s'en moquent quand même pas mal, mais je sais pas, ça marche quelque part. Moi, j'ai trouvé ça marrant et rafraîchissant et cool, quoi.
Ouais, non, vraiment,
j'ai une bonne surprise.
J'ai passé un bon moment. Et bien sûr, je pense que plein de gens ne seront pas contents.
Et oui.
Ah oui.
Oui, il y a des chances que ça queen.
Il y a des blagues sur les règles. J'ai envoyé à ma copine de l'extrait, elle m'a fait, je sais pas si je trouve ça drôle.
pourtant, j'ai pas trouvé ça particulièrement, enfin, c'est non, pas très bon
c'est,
goût, mais.
C'est une parodie de beatnik, quoi.
Ouais,
C'est des zadistes pour rester politique.
Parce que il faut avoir de l'humour. Et, voilà, nous, on est quand même de gauche, on se qualifie quand même de personne plutôt...
parle pour toi, mon ami. Toi, t'es pas rentré pour voter, hein. Toi, t'es rentré pour des,
mais tu vois,
des basses manœuvres fiscales.
J'ai pas trouvé que c'était des blagues oppressives, par exemple. C'est des blagues qui rigolent de choses, voilà, ça. Et ça se moque, oui, de certaines personnes qui, techniquement, sont des alliés, entre guillemets. Mais non, faut avoir l'humour, quoi. Il y a des choses dont il est pas forcément malvenu de rire.
Et écoute, de mon côté, moi j'ai vu Get Out finalement.
Voilà, très bien. Et mon top 1 cinéma de 2017.
Alors, je pense que ça serait quand même mon top 2.
Ouais.
Il est deuxième quand même.
Ouais, c'est déjà bien.
J'ai vu Lost City of Z et j'adore Lost City of Z.
Tu l'as mis en top 1.
Ouais, je pense que Lost City of Z pour
l'instant. Lost City of Z, s'il est sorti aux US, est sorti dans une discrétion absolue. Ouais, je n'en ai pas du tout entendu parler.
Il vient de sortir cette semaine. Je crois. Et de toute manière, le cinéma de James Gray n'intéresse pas les masses.
Pas aux USA.
Ça marche à New York, dans deux quartiers, tu vois. C'est un cinéma qui intéresse et de toute manière un cinéaste qui intéresse plutôt l'Occident, quoi.
Ouais.
C'est bon, après ça veut dire qu'il y a plein d'autres grands cinéastes qui partagent ce point commun. Je veux dire.
Ouais, Michael Bay.
Kurosawa, j'allais plutôt dire. T'es con. Et donc ouais, voilà. Écoute, on va abréger là-dessus. On enregistre dans des conditions donc un peu spéciales.
Donc Get Out quand même un petit, c'est ton top, c'est dans ton deuxième.
Ouais, et je dirais, pour paraphraser Benjamin François alias Quicks, allez-y sans aucune attente, ne regardez même pas le trailer.
Voilà.
Ne regardez même pas le trailer.
Je pense qu'il faut vraiment en savoir le moins possible. Mais par contre, si vous allez le revoir, parce que il y a des choses qui deviennent mais limpides au deuxième visionnage. Et on pourra en parler hors antenne, comme on disait à la radio dans les 90. On en parlera hors antenne, et à chaque fois tu disais, mais qu'est-ce qu'ils disent?
On t'envoie ton kit.
Et voilà.
Voilà. Putain, c'est ces blagues de vieux, là, quand même.
On a perdu la moitié de nos auditeurs.
Et donc, on a décidé, comme on enregistre, ça nous est arrivé l'année dernière aussi, on a fêté nos un an grâce à un épisode d'Henri Michel. D'ailleurs, on vous remercie pour cet accueil, pour cet épisode d'Henri Michel. On est un peu abasourdi toujours quand les gens disent j'ai découvert Henri Michel grâce à vous. D'abord, ça nous fait très plaisir.
Ça fait vachement plaisir de partager Rivière à détente avec vous, parce que voilà, tous les superlatifs dont on a abusé dans le précédent épisode ne sont pas vains. On pense vraiment le meilleur de ce podcast.
Ouais.
Et ça fait plaisir de partager, voilà.
Et puis je reviens de quelques jours où j'étais dans le sud, à Cannes, où j'ai rencontré Henri Michel. On a mangé un pan bagna au soleil.
Vous avez bu beaucoup d'eau.
On a bu de l'eau. Non, vraiment, là, ce coup-ci, on n'a pas picolé, là, ce coup-ci. Non, en plus, il était dans son Touran et tout.
Alors que moi, tu vois, je n'ai pas arrêté.
Quoi, de boire de l'eau?
De picoler.
Ouais, bien sûr. Non, nous, on a été très, très sages, ce coup-ci. Mais il n'est pas dit que j'y retourne pas dans pas trop longtemps, quoi.
Pour acheter un drama japonais.
Pour acheter un drama japonais, voilà. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une vidéo qui traîne de moi et Pouillot. Enfin, plutôt Pouillot.
Plutôt
Pouillot. Parce que moi, j'ai poussé Pouillot littéralement devant la caméra, je me suis barré. Très courageusement, parce que je déteste les micro-trottoirs à la sortie de...
Tu lui as dit, c'est ton quart d'heure de gloire, va leur parler de camping.
Et il leur a parlé brillamment en tant qu'acheteur de programmes japonais.
Quelle escroquerie, c'est merveilleux.
Sinon, il y a des gens qui vont avoir des problèmes. Et on a décidé de passer à la formule, ce qu'on appelle la formule FAQ. La formule où c'est vous qui avez fait le programme, un peu, d'une certaine manière, puisque vous nous avez posé des questions. Et on va essayer d'y répondre. On a choisi quelques suggestions. Je vous cache pas qu'on a choisi, ça veut plutôt dire j'ai mis des likes sur les questions et puis on a pris au hasard. Et donc on va se lancer avec Quix, qui va faire le montage de l'épisode, donc quand même. Mais je lui souhaite bon courage.
Bah écoute,
est-ce que tu veux te lancer?
Ouais, je vais commencer avec une question de Sunlag qui m'est directement destinée et qui demande: est-ce que vivre en Californie impose de manger mexicain? Alors, merci pour ta question. Ça ne l'impose pas, mais étant donné que la cuisine mexicaine que l'on trouve en Californie est relativement proche de la cuisine mexicaine que l'on trouve au Mexique, on y est invité de manière assez récurrente, et puis bah pourquoi s'en priver, quoi, c'est de la bonne bouffe.
C'est vraiment mexicaine. De la bonne bouffe.
Ouais, ouais, et il y a moyen de manger très sain en mangeant californien, franchement. Tu prends un burrito en mettant majoritairement de la salade et légumes.
Tu prends un burrito
Un burrito que tu ne remplis pas de crème fraîche et de viande, au final, t'as comme une salade à l'intérieur d'une espèce de galette de maïs, donc c'est délicieux et c'est tout à fait, c'est très sain. Et puis, oui, non, la cuisine mexicaine, c'est une cuisine qui est très riche, qui est pas si variée que ça, parce que globalement, ça, c'est quand même des variations autour du taco. Le burrito, c'est un taco un peu plus rond.
Des haricots.
Les carnitas, oui, et puis t'as les haricots noirs qu'on te livre avec.
Puis le houmous, il confond tout.
Tu peux faire une cuisine fusion.
Et le tarama.
comme on dit dans Top Chef, tu peux twister ton taco en ajoutant du houmous, par exemple.
T'es parti sur un taco, et puis...
Et puis, voilà. J'ai déconstruit mon taco avec... donc oui,
j'espère que ça plaira au jury.
Évidemment, ça, on pourra tu faire, tu rajoutes un petit granité avec pour faire comme Jacinta.
Et un petit peu de yuzu.
Donc ça n'impose évidemment pas de manger mexicain. En tout cas, peut-être que pour devenir citoyen américain, on me demandera quel est mon taco préféré. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise idée quand on est en Californie de manger mexicain. Oui, parce que l'offre en cuisine mexicaine à Paris, je pense, est assez limitée et je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Après, vous allez peut-être nous balancer vos meilleures adresses de restaurants mexicains de Paris et me dire que j'y connais rien et que j'ai trop heure, c'est possible. Mais en tout cas, en Californie, on trouve de la très bonne bouffe mexicaine, donc pourquoi pas. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Daniel, à toi.
C'est une question qui nous est envoyée par Birdeye, donc un fidèle auditeur. Et cette question est, vous êtes le boss final d'un RPG. Quelle musique choisissez-vous pour le combat et quelle phrase dites-vous juste avant?
Oh la vache,
toi qui joues beaucoup au RPG.
En ce moment, ouais. Je mettrais Rain in Blood en musique. Mais ce serait un combat un peu, tu vois, ce serait pas un combat où tu prends ton temps, faudrait un petit peu bourriner. Et alors la phrase, je paraphraserais Sylvester Stallone dans Demolition Man. Tu vas regretter ça le restant de tes jours, c'est-à-dire 2 secondes. Voilà. Je pense que c'est une bonne phrase d'accroche pour un boss de RPG.
Eh bien, écoute, moi, je mettrai la musique du boss de fin de Final Fantasy V, qui est sans doute un des meilleurs trucs en musique un peu 16 bits, tu vois. C'est, ouais, genre, ouais. C'est vraiment super. Je te charge à toi de la mettre un petit peu en fond.
Ouais, je ferai le montage, je serai rentré dans le...
Et ma punchline serait « Va te faire huiler », qu'on entend dans Robocop en français.
Très bonne punchline.
Voilà. Je pense que c'est la meilleure punchline de VF. Ou alors, si je veux me la péter, je ferai Optimus Prime dans le film Transformers. Et attention, pas le film de Michael Bay que tu citais plus tôt, mais le film dessin animé où il fait One shall stay, one shall. C'est un truc un peu pédant.
Un peu grandiloquent.
Ouais, voilà.
On va passer à une question que j'apprécie beaucoup de Martin Gamera. Et là, c'est une question qui va.
Un autre ami du show.
Oui. Quel est votre plus grand désaccord en cinéma, comics, musique et jeux vidéo? Alors, je propose de commencer par jeux vidéo, parce que là, j'ai une réponse évidente. Je pense que notre plus grand désaccord, c'est Dark Souls, que toi, tu adores, et moi, j'ai
pas... Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, voilà. Et aussi d'Henri Michel, je tiens à dire.
C'est vrai, mais Henri Michel a commencé direct par le 3. Commencé par le 1, et encore, j'ai pas fait Demon's Souls avant, mais... Et donc voilà, ça, c'est un grand désaccord, parce que moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans à cause de la maniabilité à laquelle je suis, mais complètement hermétique. J'ai détesté la maniabilité de Dark Souls et les caméras et le lock et tout un tas de problèmes dont j'ai déjà parlé. Et je sais que toi, c'est des jeux qui sont très très chers à ton cœur. Donc pour les jeux vidéo, je pense que ça, nos plus grands désaccords. Pour le cinéma, j'aurais envie de glisser Fiston parce qu'à chaque fois qu'on commence à en parler, tu as Brecht, je le dis pas, genre, ah, c'est bon. Parce que Fiston, c'est une comédie avec Kev Adams et Franck Dubosc que Daniel m'avait conseillé. Moi, j'étais dans l'avion. J'étais dans l'avion, sur le point de rentrer à Los Angeles, et j'envoie à Daniel la liste des comédies françaises qu'il y a sur le programme Air France, et je lui dis bon, il y a ça, tu me conseilles quoi? Et tu m'as fait regarder Maestro, qui était très bien.
Maestro, la meilleure comédie de cette année-là.
Maestro, voilà, qui était très bien. Et tu m'as dit, vas-y, Fiston, c'est bien. Et moi, j'étais sûr, du boss Kev Adams.
Ah, tout se casse la gueule.
Pendant que tout tombe sur le bureau de Daniel. Tiens, voilà, je ramasse ça. Et Fiston, j'ai absolument détesté, à part un passage où Franck Dubosc met des gifles à Kev Adams, parce que en fait, il fait ce que j'avais eu envie de faire pendant une heure de film avant.
Mais c'est old Franck Dubosc, et il essaye d'être le grand maître. Vas-y, et qu'est-ce qu'on a en désaccord comics?
Désaccord comics, je crois que tu détestes Old Man Logan, ou t'es juste
pas... J'aime pas Old Man Logan, ouais.
Mais genre, tu l'aimes pas, genre détestes, ou c'est juste...
Non, je l'aime pas.
Ouais, alors moi je l'aime bien, mais j'irai pas le défendre, donc c'est pas un énorme désaccord, quoi. Enfin, on est pas d'accord.
C'est bizarre de penser à son désaccord, il faudrait que tu me files ta liste de trucs préférés pour qu'ensuite je les snipe.
Ouais, ouais, mais...
Et vice-versa.
Mais il faudrait que je sois sûr que toi tu les aimes pas, quoi. C'est un peu compliqué, là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de débat sur des comics ou...
Je pense qu'il y a New X-Men sur lequel on s'est engueulé.
Ah putain, New X-Men, ouais. New X-Men, j'ai pas du tout aimé, en fait.
Et moi, New X-Men, je pense que c'est le meilleur run de X-Men depuis Byrne et Claremont. Et donc j'adore New X-Men.
Moi, j'ai un énorme problème. J'aime bien les thématiques abordées dans New X-Men et je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Mais j'ai détesté le traitement qu'est fait, par Grant Morrison de ce génocide. Il y a combien, 3 millions ou 6 millions de mutants qui meurent d'un seul coup à Genosha. Et c'est expédié en même pas 2 pages.
Alors.
Et du coup, tu n'as...
C'est 2 pages de plus que dans House of M.
ce qui est vrai.
Puisque dans House of M, c'est un reboot magique. Et c'est pas juste les habitants d'un pays, c'est juste la race entière mutante qui disparaît.
Mais House of M, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est de la merde. Donc,
c'est pas très bien.
Voilà. Alors que New X-Men, oui, moi j'ai vraiment été déçu par ce traitement. T'arrives pas à comprendre l'implication émotionnelle que ça entraîne. Surtout que la page suivante, t'as Beast qui est déjà en train de faire des blagues sur son rancard qui va rater le soir, alors qu'il est sur les ruines fumantes où il y a les cadavres de 3 millions de mutants. Enfin, j'ai vraiment eu un problème avec ça. Et ça m'a gâché le truc.
Beast est un philosophe. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un run essentiel. Je pense que c'est un des meilleurs runs X-Men de tous les temps pour moi.
Et alors, il y a question musique, là, je vais vraiment être incapable de répondre, parce que...
En musique ?
Qu'est-ce qu'il y a en musique ?
Bah non, parce que t'as bien...
T'aimes bien Justice, toi ?
Non,
moi j'aime pas.
Bah le truc de Justice, c'est de son d'une certaine époque.
Ouais.
Tu vois, quand j'entends Justice, je me dis, ah, 2004.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment...
Ouais, donc en fait, on n'est pas tellement en profond désaccord là-dessus.
Bon, je suis sûr que... Après, moi je te dis, avec Puyo, il peut te mettre Alizé, et tout d'un coup dire c'est du bon son. Et je serais d'accord pour dire que c'est très bien produit, mais je pense que toi, t'as envie de le détruire.
Je suis capable de reconnaître que c'est bien produit, mais que c'est pas du tout ma came, tu vois. Comme il y a des artistes, tu vois, Kanye West, et encore, il y a des trucs de Kanye West que j'aime beaucoup. Mais globalement, c'est des trucs où je vais reconnaître que techniquement c'est impeccable, c'est bien produit, il y a du taf derrière, mais que j'accroche pas du tout. Ah bah non, mais je sais, toi t'aimes bien PNL.
Ah oui, c'est vrai.
Eh ben voilà, là on a un gros désaccord. PNL, je trouve ça nul à yèche, production nulle, musique nulle, flow à chier, paroles de merde, et puis toi t'aimes bien. Donc
moi je écoute, tu arrêtes pas d'attaquer les choses que j'aime bien depuis le début. du coup je vais zapper sur une autre question.
Vas-y.
Une autre question de Gamera, tiens. Team chat ou team chien? Et là je vais dire la supériorité de team chien me paraît évidente.
Moi,
parce que les chats, c'est nul à chier. Attends, je reprends tes mêmes argumentaires. Les chats sont nuls à chier. Ils sont sur le génocide fumant des autres tribus de chats.
Eh bien, puisque au contraire, les chats sont évidemment supérieurs aux chiens, puisque les chats se démerdent tout seuls pour aller chier dans leur caisse et pour enterrer le truc, alors que les clébards, il faut les ramasser. Un clébard, c'est teubé, rien que dans la manière dont ça te regarde en tirant la langue, tu sens la stupidité dans le regard du chien.
Un chien, il peut te sauver, un chat, il va te bouffer les pieds.
Mais un chat, il s'en bat les couilles de toi, c'est bien pour ça qu'il est supérieurement intelligent. Putain, mais Martin Gamera, merci avec tes questions, là, on va finir par se taper sur la gueule. Eh bien, on va passer à quelqu'un d'autre, sinon on va y avoir des jeunes. Quelqu'un nous demande quelle séquence, alors c'est Emmanuel Ray, ou Newman, quelle séquence de jeu vidéo vous a le plus marqué dans votre vie de gamer? Je me demande si on n'a pas déjà eu une question comme ça.
Ben, on peut, on aura une autre réponse.
Alors, tu veux commencer, j'y vais?
Non, vas-y, toi.
J'ai pas eu grand chose qui m'a autant marqué depuis l'arrivée au Mexique de Red Dead Redemption, qui était, pour moi, un passage extraordinaire où, pour les gens qui n'y ont pas joué, c'est un passage où on découvre un nouveau continent, tout simplement. Après, une scène d'action assez épique et, pas forcément génial, mais assez intense, où on est sur un radeau, on descend un fleuve, on descend le Rio Grande, et on se fait canarder à distance, et donc on est obligé d'ajuster son tir, de sniper les mecs de giga loin avec une carabine qui est pas forcément super précise, et c'est assez intense, c'est un passage que généralement on rate 3-4 fois avant d'y arriver et de le passer, et là on arrive au Mexique, et on trouve un canasson, on monte dessus, et on a un seul objectif, c'est à rejoindre telle ville, avec un itinéraire qui est quasiment, enfin on peut pas se tromper, quoi. On suit le chemin, et là, il y a un soleil couchant et un morceau de musique de José Gonzalez, qui est un artiste que j'adore, qui se lance, et pendant que tu cavales avec le soleil couchant et cette musique-là qui t'accompagne, j'en ai des frissons, rien que d'y repenser, c'était un passage qui pour moi était extraordinaire, plus fort encore que la fin, et pourtant la fin de Red Dead Redemption est vraiment formidable.
Et donc le génocide des Mexicains sur ton chemin, ça t'a pas posé problème?
Ce passage-là, bah, en fait, le génocide
des Mexicains... Parce que en termes de jeu, c'est assez ridicule.
Le génocide des Mexicains, c'est ce qui se passe à vrai. Mais là, t'as une espèce de mélancolie, t'es sur ton cheval, et tu sens que ça annonce ce que le jeu raconte, qui est la fin des cow-boys en fait. Parce que toute la fin du jeu, t'es dans une ville et tu te rends compte que
là, on est d'accord que la fin est beaucoup mieux que le début, quoi.
Bah.
Et d'ailleurs, toute la séquence de fin. Et alors, attends, parce qu'on peut mettre, on peut parler spoiler. Sinon, vous zappez deux minutes.
Voilà.
La fin, c'est le héros qui rentre dans son ranch et il retrouve son fils. Et donc, il y a ces moments géniaux.
Il retrouve sa famille, ce qui était le MacGuffin du jeu. Tu courais après ta famille.
Et donc là, il essaye de de rebound avec son fils. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il sait pas lui parler. C'est un putain de cowboy. Alors du coup, il essaye quand bien même.
C'est un ancien desperado.
Et son fils le calcule pas. Et je trouve que c'est sans doute une des meilleures séquences de jeu de cette année-là. Et pour rebondir sur la question, j'ai eu plusieurs séquences de jeu inoubliables cette année. Mmh. Je vais juste les dire. J'en ai parlé un peu dans Gaijin Ash. Il y a Resident Evil en VR, où tout d'un coup, tu te mets contre un coin d'un mur.
Ouais.
Tu regardes, il y a un couloir derrière, mais tu es derrière le mur quand même.
Tu penches la tête.
Et tu penches la tête. Et là, tout d'un coup, toute la stratégie de jeu change, quoi. C'est-à-dire que t'as plus le fameuse disparition magique de se coller contre un mur à la Metal Gear.
Ouais.
Et là, c'est littéralement toi qui bouge la tête, et je trouve ça génial. Je trouve ça extraordinaire.
Ce que tu disais en plus, c'est qu'en penchant la tête, le monstre peut te voir.
Ouais.
Ce qui est un truc qui n'est pas si courant dans les jeux vidéo. Généralement, tu te mets en planque, tu penches la tête, et l'IA te voit pas.
Non, là, il te voit.
Ouais. Non, et c'est, ouais, je peux comprendre. Ouais.
Et aussi dans Zelda, une de mes séquences préférées de l'année, même des jeux vidéo depuis.
Ever, oui, parce que la question, c'est de ta vie gamer.
Je parle juste pour cette année, en tout cas, déjà. C'est que Zelda, à un moment, tu es tout en haut de la tour et tu te laisses planer avec le vent vers la nouvelle région, une région qui t'attend, c'est au tout début du jeu, et tu regardes et tout d'un coup tu découvres que le monde est tellement grand, et au loin tu sais il y a des plaines et tout, et j'ai vu tout d'un coup j'ai vu des chevaux sauvages qui couraient dans la plaine, et alors là je me suis essayé de me diriger vers eux, et tu vois genre en planant, et ensuite je me suis lâché presque au milieu de ces chevaux et je me suis mis à courir avec les chevaux, et ensuite tu grimpes sur un et ensuite tu commence à comprendre comment on essaye de grimper sur un cheval et ensuite de qui t'obéisse un petit peu plus et tout, c'est vraiment génial. Je pense que c'était inoubliable. Et en meilleure séquence de jeu de ma vie, moi je te dirais Miracle Warrior, la première fois où j'ai gagné un level. Si tu veux, c'est sur Master System et c'est mon premier RPG. Et la première fois où j'ai compris que waouh, si je frappe, je deviens plus fort. C'était ma boule.
Fou. Tu comprends, c'est vrai que quand t'es gamin, le système d'expérience, c'est pas un truc qui est forcément évident.
Ouais, alors qu'aujourd'hui c'est inné. Mais
je me rappelle comme j'en chiais sur Rigar, sur NES, avant de comprendre qu'en fait on gagnait de l'expérience en tuant des monstres, et donc du coup des boss sur lesquels j'en chiais et je me les retapais 15 fois avant de réussir à les tuer, où en fait il suffisait d'aller grinder pendant 20 minutes et ensuite tu les butais facile. Et c'est vrai que c'est pas un concept qui est immédiat. Surtout qu'à l'époque, les notices étaient pas forcément super explicites là-dessus. Puisque t'as parlé de Zelda, je rebondis avec une question de Gokan qui demande si j'ai réussi à me procurer une Switch US ou EU. Alors, vivant aux US, je ne vais pas procurer une Switch EU, même si elle est pas zonée, mais ne serait-ce que pour avoir le bon câble d'alim et tout bordel. Bon, après, c'est de l'USB, a priori.
C'est juste un câble d'alim.
Ouais, mais après, c'est pas forcément chiant, mais elles sont pas zonées au niveau du store non plus.
Non.
Donc, ouais, bon, je pourrais. Mais je pense que je la paierai moins cher là-bas, déjà.
Ça, c'est sûr. Pas de beaucoup, mais ouais.
Ouais, et puis... Et donc je n'ai toujours pas de Switch, mais j'en ai envie pour jouer Zelda en fait. Mais ce sera peut-être le seul jeu que je vais faire pendant des mois.
Je t'ai donné envie. Bah ouais. Moi j'attends Mario Kart. Mais bon, Mario Kart.
Mais Mario Kart.
Je le connais déjà.
Mais Mario Kart me fait envie, mais je me dis, est-ce que je vais vraiment y jouer tout seul? Parce que quand je vais jouer à Mario Kart, je vais chez mes potes où il y a une Switch, où il y a une Wii U avec un vidéoprojecteur et on joue à 4 quoi, ou voire à plus. Donc ouais, non, je suis pas complètement persuadé pour Mario Kart, même si c'est un excellent jeu et que oui, les gens qui auront des amis sous la main peuvent se le faire. Mais donc non, je n'ai toujours pas de Switch car de toute façon, elle est toujours quasiment introuvable aux US, que quand il y a du stock, ça part, c'est une question de minutes, ça part en 20 minutes sur Amazon, ça part en 5 minutes chez Walmart. J'en ai vu chez Toys R Us à La Roche-sur-Yon. S'il y a des gens qui cherchent des Switch, vous allez là. Ouais, j'en ai vu. Il y en avait une ou deux qui traînaient.
Une question de Xenocross qui est, quels sont vos plats préférés? ou le plus détesté, surtout quand vous allez manger chez des potes?
Je pense que je peux répondre pour Daniel, son plat préféré, c'est la brochette bœuf fromage.
Faites faire plus.
Qu'il trempe dans la sauce soja.
Non, le plat que je suis le plus heureux de manger chez des potes, c'est la fondue savoyarde. Et je précise bien la fondue savoyarde, je préfère la fondue à la raclette.
Et moi, le plat que j'apprécie le plus de manger chez des potes, c'est la raclette que je vais manger ce soir chez des potes. Donc, on est très fromage, team fromage quand même. Même si c'est pas le même fromage.
Et
check.
Voilà. Check. Et là, on peut faire des checks. Là, et le plat détesté?
J'ai pas vraiment de plat détesté, moi.
J'aime pas le hachis parmentier, sachez-le.
Qu'est-ce que tu n'aimes? Alors, c'est la viande ou c'est la purée?
C'est le mélange des deux.
Ah ouais,
ça me...
Tu n'aimes pas twister ta purée avec un petit peu de viande hachée?
Non, ça me dégoûte rien que d'y penser, en
c'est
fait.
Vrai.
C'est très bizarre.
Et la brandade de morue, celle qui a posé tant de problèmes à notre candidat dans Top Chef.
Ah, le bac.
Car oui, j'ai regardé Top Chef pour la première fois de ma vie.
J'ai pas vu. Et non, j'ai pas de problème avec le bacalao.
C'est marrant.
J'aime bien le bacalao.
Mais avec le hachis, ouais. Bon, bah, ouais. Pourquoi pas. Je sais pas si j'ai un plat détesté.
Sinon, je déteste le natto. Qui est du
du gluant.
Non, c'est un truc fermenté. C'est ça sent le caca.
Ouais.
Parfois quand il est bon, ça sent le caca de bébé. C'est horrible. Je déteste le natto.
C'est pas du tout à base de riz, c'est un légume.
Non non, c'est un
peu comme le marmite alors.
Non, c'est un haricot fermenté.
C'est un haricot, d'accord.
Ouais. Et donc j'aime pas le natto, et sinon j'ai vu dans un de mes derniers voyages je crois que c'était en Thaïlande. Je suis passé à un marché local super petit, il y avait des trucs immondes, il y avait des trucs que je n'arrivais pas à regarder.
Il y avait du durian.
C'est quoi ça?
Le durian, c'est un fruit qui schlingue sa race.
Ah non, je te parle de brochette avec le petit poussin,
né à bout de.
Ah, genre, c'était horrible.
Et pourtant, la street food, c'est ce qu'il y a de meilleur en Thaïlande, d'ailleurs, ils veulent l'interdire.
Non, c'est pas du tout ça. Vas-y, à toi.
Combien de langues parlez-vous et lesquelles? Et alors là, je prends un risque débile en posant cette question, parce que moi, je suis un peu nul. Je parle français et anglais, j'ai encore des vagues notions d'allemand, et donc je suis ridicule par rapport à toi.
Bah non, t'es pas ridicule, faut bien parler les langues. Y a pas de langue plus ou moins ridicule, y a pas de ridicule
c'est
là-dedans.
C'est surtout en nombre que je suis ridicule.
Non, bah je parle français, anglais, russe, japonais, je parle espagnol suffisamment.
T'as parlé polonais devant moi l'autre jour.
J'ai parlé polonais devant toi et c'était pour marchander. Alors, oui, c'est vrai que quand tu me lances, il y a des choses que je comprends dans certaines langues. Du coup, tu sais, mon père me faisait écouter Mozart, donc du coup, je connais. Du coup, les opéras en allemand, il y a des petites bases qui sont restées. Mais
Yiddish aussi un peu.
Un petit peu. Non, mais toutes les bases allemandes, allemandes germaniques. En fait, j'ai remarqué que j'ai un truc qui me, je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop mal, mais en tout cas la base polonaise, le polonais je ne le parle pas vraiment, je le parle suffisamment pour marchander comme t'avais vu.
Ouais,
d'ailleurs ça a marché
ouais.
et c'est une langue bah tiens, j'ai raconté une anecdote personnelle. C'est une langue en fait chez moi qui est dormante, c'est-à-dire que j'entendais ma mère le parler avec ma tante, avec ma grand-mère, et elle se disait les secrets de meuf, les secrets d'alcôve. Donc je sais juste en polonais, insulter les gens. Je sais dire cette nana, elle pue la merde, tu vois, ce genre de truc, je sais le dire en polonais.
D'accord.
Je sais dire les insultes de meuf. Donc, je suis sûr que si j'allais une semaine en Pologne, je parlerais.
T'insulterais tout le monde?
D'abord, oui, mais je parlerais vachement mieux. Je pense que je parlerais vachement mieux. Et puis l'espagnol aussi, que j'ai pas mal pratiqué dans les montagnes au Pérou. Voilà. Mais il y a, encore une fois, il n'y a pas de ridicule. L'important, c'est d'y prendre plaisir et de pratiquer.
C'est vrai. C'est à toi.
C'est à moi. Qu'est-ce qu'on... Top 5 romans.
Oh la vache. Eh bien...
Tu veux que j'attaque?
J'ai un top 5 romans sur Sens Critique que j'invite à lire. Honnêtement, là...
Vas-y, connecte-toi.
Non. Top 5 romans, j'ai... Y a
ou 200... top 10, hein, si tu veux.
200 froid de Truman Capote. Brave New World de Huxley.
Ouais.
Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Là, comme ça, au débeauté, là, qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai pas lu de roman récemment, en plus. En ce moment, je suis encore...
Non, mais pas récent, les trucs que
ouais,
tu disais pas. Hein.
Bah, j'ai,
c'est une question de Lefebvre sur Twitter.
Ouais. J'ai toujours énormément d'affection pour Misery de Stephen King.
Ouais.
Qui est un de mes préférés, je crois, de tout ce qu'il a fait. Bon, après, j'ai pas tout lu parce que c'est dur de lire tout Stephen King. Quoi d'autre? Vas-y, balance dans quelques-uns le temps que je réfléchisse.
Alors moi, il y a les frères Karamazov, Dostoïevski. Et avant, j'avais l'habitude de citer les autres, et en fait, je pense que frères Karamazov, c'est vraiment mon préféré.
Ah, j'en ai un. Ah oui, sans plus.
Vas-y, balance.
Le Maître et Marguerite de
Bulgakov. Ouais. Extraordinaire. Ouais.
Qui est complètement,
c'est un bouquin mystique.
C'est un bouquin what the fuck du début à la fin, et c'est formidable.
C'est un bouquin pour les amoureux de Moscou, hein. Ça vaut le coup de visiter Moscou sur les traces de
Moscou. Mais c'est vrai que le bouquin
sur
est
les traces
de
Bulgakov. Je t'ai dit les frères Karamazov. Je suis fan de Huckleberry Finn, ouais. De Mark Twain. Généralement, Mark Twain est un de mes auteurs préférés. J'adore vraiment toute l'œuvre de Mark Twain et Huckleberry Finn particulièrement. Ouais. Après c'est du classico, mais Melville, Moby Dick, je trouve que c'est essentiel. J'adore Expérience de Martin Amis. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Il y en a dans les plus contemporains. Je suis assez fan de Cavalier and Clay, dont on a sans doute parlé dans un After Eight, qui est écrit par Michael Chabon. Michael Chabon dans mes préférés. Vivant, et dans toujours les vivants, j'adore Philip Roth. Et Philip Roth, The Human Stain, s'appelle La Tâche en français.
La Tâche, ouais. Et moi j'aime Le Complot contre l'Amérique de Philip Roth, qui raconte...
Le Plot Against America.
Voilà, une Amérique où Lindbergh rencontre l'élection présidentielle, remporte l'élection présidentielle, ouais. À une époque, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, mais Lindbergh était pro-nazi en fait.
Ouais.
Et donc c'est une Amérique dystopique, qui, bizarrement, a un certain écho de nos jours. Donc oui, j'aime beaucoup aussi. Et ben, puisqu'on parle de plus contemporain, oui.
J'adore Portnoy aussi, de Philip Roth.
Ouais, j'ai pas lu celui-là.
Et qui te plairait beaucoup.
Je sais que, par exemple, j'aime pas avec Ta chair et tendre, puisque je déteste toute l'œuvre de Bret Easton Ellis.
Ah ouais.
Mais par contre, j'adore...
T'aimes bien son podcast.
j'écoute pas, j'avoue.
J'écoute son podcast, oui.
J'adore Le démon de Hubert Selby Jr. Là, si tu veux un truc... qui est bien écrit et qui a des trucs à raconter, et où là c'est encore un personnage dégueulasse, et ben je trouve que ça c'est vachement bien. Donc Hubert Selby Jr. Et j'aime beaucoup Courir avec des ciseaux de Augustine Burroughs.
Ok, bah ça y est, on a fait 5
là.
Ouais, moi j'avais fait 5, mais là j'ai dit les 5 préférés, mais après c'est dommage parce que tu exclus tellement d'autres, mais
t'es obligé.
On va faire un épisode littérature.
Ouais.
Une question de Quentin Falcon qui nous écrit.
T'as presque fait une Philippe Bouvard. Question de Quentin
de Falcon.
La quéquette.
Phoenix, qui nous dit, avez-vous enfin réussi à force à convaincre Quix de participer à Super Ciné Besson Battle? Alors... Et là, je pense qu'il va falloir un petit peu, on va pas mettre nos cartes sur la table.
On a un projet qui est lié à Super Ciné Battle et qui est lié à un certain, on va dire, réalisateur. Homme de cinéma français.
Et qui est lié au Robotics Podcast Universe.
Ce ne sera pas un épisode hors série de Super Ciné Battle. On peut dire que ce sera probablement une série de spin-off.
C'est un spin-off.
Ce sera un concept relativement différent de ce qu'on fait, même si on les classera ultimement à un moment.
Oui, non mais classer, c'est pour la blague.
Mais comme on est encore en train de travailler dessus, on ne peut pas en dire plus, donc voilà. On va dire que c'est...
Mais disons que c'est en production.
Mais c'est en cours de... Voilà.
Je peux vous dire un truc, c'est que on a déjà le logo qui se prépare.
Le générique se prépare.
Le générique se prépare.
Et puis on a déjà commencé à bosser dessus, en fait.
Et papa sera de la mise. Ça sera nous trois.
Ça sera à trois. Ce sera un truc à trois têtes.
Et ouais, parce qu'en fait, à trois, c'est assez chouette. Hein.
Bah, on s'amuse bien.
Ouais. Et donc, je réponds du coup même coup à la question de Full qui est-ce que le Robotics Podcast Universe compte s'étendre? Genre le podcast oui. Before Love, où vous donneriez vos meilleurs pick-up lines. Alors non, je suis très mauvais.
Pick-up line, je suis nul à chier aussi.
C'est nul à yesh. Mais par contre, le podcast Robotics Podcast Universe va s'étendre. Et on en reviendra bientôt. On s'était donné comme deadline de production qu'on arrive au moins au 1 an de Super Ciné Battle, qui sont le mois prochain déjà.
Qui s'en rapproche.
Donc, une fois que les deux podcasts ont atteint 1 an, je pense qu'on aura assez de bouteilles pour parler du futur. Et restez connectés, vous allez bien vous marrer. Voilà, si vous aimez la bonne rigolade, je pense que ça va être bien.
Alors, une question de Dernière Bienséance, qui est lui aussi un auditeur très fidèle, et qu'on remercie. La pop culture est-elle un phénomène typiquement anglo-saxon? Alors moi, je pense que non. Même si la pop culture a énormément d'origine anglo-saxonne, ne serait-ce que les comics, ne serait-ce que le nom pop culture, ça vient de pop, et la pop musique vient évidemment de Grande-Bretagne. Mais il y a toujours eu des efforts qui ont été faits, ne serait-ce que pour importer une certaine forme de pop culture. Je pense à, je sais pas, à des mecs comme Étienne Dao, par exemple, qui sont allés en Angleterre, ont dit « Ok, sont revenus », et puis ont importé une forme de pop music à la française. Mmh. Et puis pour moi, les BD franco-belges, ça fait partie de la pop culture. Et les BD franco-belges n'ont pas eu besoin des comics pour acquérir des galons. Enfin, il y a eu toute une période...
On dit pop culture par rapport à notre podcast, pour le différencier un peu, et parce que... Il y a forcément une forme de culture canonique, mais le truc
de la culture, c'est avec un grand C pour justement ce qui est pop culture.
C'est que nous on considère que la pop culture, enfin ce dont on parle, fait aussi partie de la culture.
Bien sûr.
C'est l'ensemble des choses qui nous distinguent et qui nous passionnent, et c'est pour ça qu'on en parle. Et c'est pas uniquement anglo-saxon, mais c'est vrai que ils sont massivement producteurs.
La pop culture puis ses racines dans le punk, tout un tas de mouvements anglo-saxons, les comics, mais une pop culture à la française est tout à fait Astérix et Lucky Luke, c'est des icônes de la pop culture. Mmh. Et Lucky Luke, dont j'ai découvert ce week-end en m'intéressant un peu, parce que j'ai mis la main sur les deux hors-série un peu spécifiques, le Joy Jumper ne répond
plus au
bazar. Je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté.
Ah, parce que je l'ai dans ma bibliothèque, je l'ai enfin rangé dans ma bibliothèque.
Et j'ai aussi acheté L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, parce que c'est deux albums dont on m'a dit plus grand bien, et je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas...
Le Jolly Jumper est vraiment très drôle.
Ouais, bah oui. Et je me suis dit, c'est vrai que une petite intégrale Lucky Luke, ça peut être sympa, et là je me rends compte qu'il y a 83 albums canoniques, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, 83 albums.
Tintin, ça va plus vite.
S'imagine l'âge, mine de rien, que ça peut avoir. C'est quand même, c'est une icône, Lucky Luke. Et c'est, mine de rien, un personnage important de la pop culture, et c'est purement belge. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être anglo-saxon.
Une question de Stéphane qui nous est posée assez souvent. Salut, comment avez-vous découvert les podcasts, ce que vous écoutez, pourquoi en faire? Alors, pourquoi en faire? Parce que ça nous fait marrer.
Ouais, pourquoi en faire? Parce que à la base, on s'est dit, on pourra rigoler. En plus, on discutait déjà.
On voulait écrire des trucs et en fait, écrire à deux, à quatre mains, à distance, c'est très loin,
ouais.
C'est très compliqué. Et du coup, on s'est dit, mais non, en fait, on devrait en faire un podcast.
On peut le dire. À la base, on voulait écrire ensemble sur le célèbre réalisateur dont on a parlé tout à l'heure,
Luc Besson.
Et on avait commencé à se regarder les taxis. On en avait déjà parlé en se synchronisant à distance pour regarder les films en même temps et en prenant des notes.
Et puis on avait des stocks de notes.
On avait puis des screenshots, enfin on y était allé, on avait fait ça bien. Puis on s'est rendu compte que ça marchait pas à l'écrit en fait. Et on s'est dit, et finalement on l'a jamais fait en podcast, mais voilà, ça c'est le projet.
Un mal pour un bien, comme on dit.
Et quand on a commencé à se pencher sur le format podcast, on s'est dit mais la pop culture c'est bourré de sujets super intéressants et puis si on arrive à intéresser 50 personnes avec les conneries qu'on raconte, on sera super content.
Et c'est beaucoup plus que 50 personnes.
Et oui, et on est ravis de voir que vous êtes plus que 50, que nos conneries font marrer. Donc, ça nous fait très plaisir. Et après, les podcasts, comment j'ai découvert les podcasts? Quels sont les premiers? Je pense que c'est...
Moi, c'est les podcasts de comics d'abord. J'ai vraiment beaucoup...
Ouais, et puis les podcasts de Kawa, mais avant que ça s'appelle Radio Kawa.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a Radio Kawa. Ouais.
Parce que Radio Kawa, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau de podcasts indépendants qui est là depuis très longtemps, qui avant était sur une web radio, je vais y arriver, qui s'appelait Synops Live, et j'avais été contacté par Inks, qui est le big boss final... du RPG Radio Kawa, pour participer à une émission avec lui. Et je m'étais bien marré, et j'avais bien aimé le format. Moi, j'ai participé en tant qu'invité. C'était Checkpoint à l'époque. C'était une émission de jeux vidéo. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de pourquoi pas m'y mettre aussi.
Ouais.
Ayant rencontré mon camarade.
Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, les podcasts comics. J'ai cité War Rocket Ajax, que j'adore, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. On les cite au fur et à mesure des émissions, je crois qu'on fait quand même beaucoup de recos sur les podcasts. Parce qu'il n'y a pas que nous, hein, il faut écouter aussi les autres. Tu veux que je passe en revue
ta liste de podcasts,
hein. Ouais, qui est quand même assez longue. Alors, il y a le podcast de Bret Easton Ellis, si tu veux.
Ouais, alors moi, je pourrais pas, c'est pas possible.
Ah, il est très spécial, il est très, très pointu. Il y a tous les podcasts de The Ringer, qui sont très chouettes. The Ringer, qui est l'héritier de Grantland. Qu'est-ce que je pourrais te recommander? Ah, je m'en veux presque de ne pas les avoir mentionnés dans le précédent émission, mais il y a Comedy News Weekly.
Il en a parlé. Ah non.
Non, il en a pas parlé. Et du coup, Comedy News Weekly, c'est... ces deux mecs, c'est Anthony
Mirelli et Dan Gagnon.
Et voilà, exactement.
Qu'on salue d'ailleurs, parce que je pense que, enfin, en tout cas, Anthony, je sais qu'il nous écoute.
Ouais. Et ils passent en revue, les stand-up et les émissions, les émissions de comédie, qui passent à la télé, et ils le font vraiment avec une,
un enthousiasme.
Enthousiasme. Moi, j'allais dire acharnement, mais ouais.
C'est un très bon podcast que je recommande chaudement.
Il y a bien sûr How Did This Get Made dont on a parlé 15 000 fois.
Voilà. Qui nous a présenté, je pense.
Ouais, c'est marrant parce que ensuite, du coup, j'ai beaucoup de retours sur les podcasts qu'on en parlait. Par exemple, j'avais parlé de I Was Vertu, qui était quand même un podcast un peu mineur.
Oui.
Qui est tout d'un coup, il y a plein de gens qui me disent ouais, I Was Vertu, vraiment.
I Was Vertu, on va rappeler le concept rapidement. C'est des gens qui avaient des rôles mais complètement mineurs, mais sur des films énormes, mais qui du coup ont des anecdotes de production et sont vachement plus faciles à approcher que les stars.
Et ils en parlent sans tabou, ouais.
Voilà, exactement.
Je me suis mis récemment, sur les conseils de Max, à Pop Culture Happy Hour. Mm-hmm. C'est vraiment pas mal. C'est public, donc c'est pas mal. Je vais commencer à écouter Relire Tintin, c'est dans les nouveautés. Ouais, il y en a quand même, ouais, voilà, déjà, on en a cité pas mal, déjà.
Voilà, ouais.
Et y en a un qui m'a vraiment fait rire, c'est The People versus Batman versus Superman.
Oh putain, faut que j'écoute ça.
Et c'est un podcast qui est uniquement consacré au film. Et il passe section par segment.
Oh merde.
Et au fur et à mesure,
tout de suite.
Au fur et à mesure, il commence, c'est le syndrome de Stockholm, il commence à être prisonnier du film, il commence à y prendre goût. La sélection rap d'Olivier Cachin. Je l'écoutais hier.
Ouais.
Et vraiment, Olivier Cachin. Mais après, c'est un peu de la gruche parce que c'est des émissions de radio. Et ouais, non, voilà. Déjà, on en a fait pas mal. Voilà. Vous avez quand même de quoi écouter, là.
Voilà. Il y a une question qui m'est directement adressée.
Vas-y.
Puisque j'ai un peu balancé ta guilty passion pour Franck Dubos dans Super Ciné Battle avec ma liste.
Tu t'en es moqué.
Oui. Oui, je l'avoue. Je l'avoue, monsieur Andreev, car il était temps de dénoncer cette imposture.
Ouais.
Car je suis très fier d'avoir balancé une liste de 3 films qui ont tous fini dans le bottom 5. Ouais. Ça c'est une petite victoire pour la France. Et donc, on me demande, de qui es-tu le guilty fun? Est-ce que moi, j'ai un guilty pleasure? Alors, je suis extrêmement fan de Mark Wahlberg, mais comme vous en dites du bien à chaque fois, du coup, c'est pas tellement un guilty
pleasure. Je pense que c'est Patrick Puydeba qu'il faudrait dire.
Mais oui, bien sûr, mais je suis guilty fan de Patrick Puydeba.
Et même de, plus généralement, d'AB Productions.
De tout AB Productions, évidemment.
C'est quand même de la brave merde.
Et oui. Mais je suis toujours ébahi, épaté par le talent de ce qui s'appelle la sitcomologie. C'est un site de, c'est des experts, mais archi pointus sur toutes les séries AB, et ils sont incroyables, et leur compte Twitter est génial. C'est eux qui avaient sorti la vidéo Closer to Azoulay,
ouais.
Avec donc Closer de Nine Inch Nails, sur les moments les plus hot des sitcoms AB Productions, une vidéo qui est fantastique et qu'il faut absolument voir. Et oui, j'avoue, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé Les Mystères de l'Amour, parce que c'est extrêmement difficile depuis les USA.
Je pourrais te les choper, je pourrais être ton cousin de France.
Être mon cousin d'Europe. Mais j'ai une guilty passion pour les sitcoms AB. Si vous allez sur Sens Critique et que vous regardez un peu les diverses séries AB, il y a des chances que vous tombiez sur une critique que j'écris, qui généralement est longue. Celle des Mystères de l'Amour, elle fait genre 50 000 signes, donc je lui ai fait des efforts. Oui, AB, on va dire que c'est mon guilty pleasure. Mais si je devais, et Patrick Puydeba, que j'ai interviewé d'ailleurs, parce qu'il a fort sympathiquement accepté de rencontrer un type qui à l'époque sortait de nulle part, n'avait pas de podcast, n'avait pas de légitimité.
Tu lui as sucé la bite.
Eh bien peut-être, monsieur. En quoi ça vous dérange? Et il avait fort gentiment accepté de se livrer à ce truc surréaliste où c'est une copine qui avait filmé avec un appareil photo et le son était pourri, mais ça reste une super rencontre et un très bon moment. Et voilà. Et Patrick Kerker.
Une question de Munoz Nicolas, qui est vos mangas préférés?
Ghost in the Shell.
Ah, en manga, d'accord, ok.
En manga, ouais.
Ouais.
Ouais. En tout cas, le premier, ce qu'il a fait après, 1.5 ouais. Et Manage Interface, moi, mais. Bah, à toi, j'en ai dit un.
Plutôt.
Ah, putain, salaud. 20th Century Boys.
Ah, ouais, je suis pas très fan de la fin, mais ouais, je suis d'accord. Et sinon, alors, je suis très fan de Kozule Ogami, donc Baby Cart.
Baby Cart, ouais.
Ouais.
Qu'est-ce que je peux citer
en shonen? Je suis très très fan de Yu Hakusho.
J'ai jamais vraiment accroché, moi. En fait,
Yu Hakusho, c'est le shonen un peu décalé, quoi.
Ouais.
Mais bien sûr.
Enfin, tu veux dire Robert et les fantômes.
Oui, voilà. J'adore Ashita no Joe. Ah, moi je suis vieux, moi je suis vieux manga.
T'es plutôt old school, ouais. Ouais, ouais. Tiens, ouais. Si j'avais mon armoire devant moi, ma bibliothèque avec tous les mangas que j'ai acheté.
Ouais, bien sûr.
Bouddha.
Ah, Bouddha
de Tezuka. Ouais. C'est peut-être mon manga Tezuka préféré. J'ai eu vachement plus de mal avec Blackjack, je sais pas pourquoi.
Moi c'est Blackjack mon préféré.
Ouais, j'aime beaucoup Blackjack, hein, mais Bouddha, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'était le truc, j'ai accroché tout de suite et j'ai trouvé ça formidable. Je me suis quand même pris une baffe dans la gueule quand j'avais lu Video Girl High à l'époque.
Oh.
Ouais, j'avoue, j'avais un petit cœur d'artichaut, tu vois. J'étais un petit romantique. Et je sais même pas s'ils sont encore réédités, les Video Girl, ils doivent pas être évidents à trouver maintenant. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont réédités, en fait. J'étais dans une librairie avec un copain en début de semaine, et en fait, je suis un peu perdu dans l'offre actuelle.
Ah ouais?
Je m'y retrouve plus, peut-être parce qu'il y a trop de trucs différents qui sortent, et que du coup, je suis un peu perdu. Mais c'est vrai que j'ai terminé les séries, tu vois, quand je me suis expatrié, j'ai continué à acheter des mangas que j'achetais déjà en France. Donc je commandais les versions françaises. Et j'ai jamais eu vraiment envie de commencer une nouvelle série. Donc j'avais terminé plus tôt, je continue Berserk parce que ça continue de sortir. Mais je crois que Berserk, c'est la dernière que j'achète encore, et j'en ai pas commencé de nouvelles. J'ai lu un peu les Arsène Lupin qui sont sortis chez Kurokawa, qui sont sympas, mais il n'y a pas vraiment eu de nouveaux mangas récents. Si, j'aime bien One Punch Man, par exemple, mais c'est vrai que je ne ressens pas le même plaisir que quand je lisais les GTO à l'époque.
Une autre question de Arnaud Lehuc, qui est, et ça c'est très spécifique, quelle est votre histoire favorite des 4 Fantastiques hors Secret Wars 2015. Tu veux que je me lance tout de suite?
J'en ai une.
Ah, vas-y.
J'en ai une. C'était une histoire qui était parue dans un Nova. Donc, édition Lug, c'était genre dans les années 80.
Ah, donc c'est John Byrne.
Et ça m'avait marqué parce que j'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et je suis retombé dessus, je sais plus comment, genre je rangeais des vieilles BD. Et c'est donc une histoire où le père de Alicia Masters, donc Philip Masters, qui est le
Puppet Master.
Le Puppet Master, comme dans Ghost in the Shell d'ailleurs, il réussit à faire revivre leur passé à la famille Richards, pour donner à sa fille l'existence qu'il aurait voulu qu'elle ait, en fait.
Il est raptiste dans une mini-town.
Il est raptiste dans une ville miniature.
Oui, 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 je vois très bien, c'est John Byrne, mec.
Et c'est, voilà, et les dessins sont fort extraordinaires. Et l'histoire est géniale. Et c'est quoi, c'est 40 pages?
C'est deux numéros.
C'est deux numéros. Enfin, c'est un one shot qui doit à l'époque a dû sortir dans ce qu'ils appelaient les récits complets Marvel. C'est comme ça qu'ils.
Non, il est sorti dans Nova, vraiment. Je me souviens.
Mais ils l'ont bien dû sortir dans un RCM, non? Après, je sais pas.
Non, je pense que c'est sorti vraiment dans Nova.
Enfin, en tout cas, ça fait partie donc de la série régulière des 4 Fantastiques.
C'est, je crois que ça s'appelait Terror in Tiny Town. Terror in Tiny Town. Ouais, et l'idée en fait c'est que Puppet Master a foutu leur psyché
dans
des corps artificiels.
Parce que Puppet Master, quoi, c'est
Et ils revivent une vie parallèle dans un monde.
Où ils ont une vie normale.
Où ils ont une vie normale, et au fur et à mesure, Reed Richards se rend compte que.
C'est pas possible.
Ouais. Et c'est super bien, c'est John Byrne. Et je pense que c'est une des meilleures histoires de John Byrne.
Et c'est super bien parce que, et on en avait parlé quand on a parlé de Secret Wars, du fait que Ben Grimm, c'est un mec qui est archi torturé parce qu'il en voulait pas de ce pouvoir et que ça lui pourrit la vie et c'est pour ça qu'il y a un mur dans Secret Wars et que ça lui convient très bien. Et évidemment, dans cette histoire de John Byrne, bah oui, lui avoir une vie d'humain normal avec la fille qu'il aime, c'est tout ce qu'il a toujours voulu. Donc il y a
pourquoi partir ?
Exactement. Lui, il serait limite prêt à rester là-dedans, quoi. Mmh. Et puis finalement, il se dit bon, bah en fait, c'est pas la vraie vie. Mais c'est vraiment une chouette histoire. Et pour moi, c'est mon histoire des 4 Fantastiques préférée parce que c'est un de mes premiers comics aussi.
Ouais. Donc je peux comprendre que moi c'était un petit peu avant avec X-Men. Mmh. Mais il y a il y a vraiment une scène dans ce comics-là qui me marque. C'est Sue Richards qui vole sur un champ de force invisible, ouais. Et elle est encore petite. Et tout d'un coup, elle passe devant Docteur Doom, mais sans son masque.
Sans son masque, oui.
Et elle dit, oh, je savais qu'il était scarifié, mais pas à ce moment-là, et oui, tu le vois pas.
Elle a une vision d'horreur, elle voit son visage, elle est super choquée.
Et j'adore ce passage, et c'est à l'époque où Docteur Doom montrait pas son visage tout le temps. Et moi, évidemment, c'est, tout Byrne, l'arc de Byrne des Fantastic Four, donc ça va de 232 à 294, un truc comme ça, de tête. Et il y a deux omnibus qui sont sortis, je crois. C'est vraiment super, et en particulier le
Trial of Reed Richards.
Tu sens que j'ai de l'asthme en ce moment.
Ouais, ça t'a un peu de mal.
Et ça, c'est génial. Et si vraiment, vraiment le meilleur Fantastic Four, ça reste comme Jack Kirby. Et je pense à la trilogie, de Galactus, et aussi à une histoire simple qui est Fantastic Four numéro 51. Et c'est This Man, This Monster qui est vraiment fabuleux. Je pense que c'est un des one shots les plus essentiels, quoi. C'est à lire comme on lit du Ditko pour Spider-Man.
Nous avons Salmon Adrien, ou Adrien Salmon, je ne sais pas dans quel...
C'est bien cette structure d'épisode, parce que tu pourras zapper les trucs, tu pourras effacer les questions que t'as pas aimées.
Ouais, mais non, mais pour l'instant, moi, je trouve qu'on sélectionne bien. Qui nous demande un mot sur American Gods, quel est votre niveau d'attente? Je sais pas, est-ce que tu as lu American Gods de
Miguel? Oui, bien sûr, j'ai recommandé North Gods qui sort en mai en France.
Donc... American Gods que j'ai lu et que j'ai bien aimé, même si ce n'est pas mon Gaiman préféré c'est Neverwhere.
Moi c'est American Gods.
American Gods, mais j'ai beaucoup aimé American Gods quand même. Donc du coup, bah oui, j'attends la série avec une curiosité non feinte.
Je devais la voir à Cannes et je ne l'ai pas vu.
Parce que tu devais acheter un drama japonais.
Voilà. Tout pourri.
Non, très bien. Donc on est tous les deux globalement assez enthousiastes et impatients et curieux. Alors, au moins curieux.
Le truc c'est que avec les séries, j'ai appris qu'il faut pas trop, faut en avoir rien à foutre. Tu vois, Preacher, si vous regardez la série Preacher, je fais... Ah, qu'est-ce que j'aimais bien dans la BD en fait. Et je sais très bien ce que j'aimais bien dans la BD. C'est juste que la série
ça n'allait pas.
Me va pas du tout, ouais.
Petite question peut-être de ta part, Daniel.
Allons-y. Une question de Pimpin le Magnifique qui est: dans quel UGC parisien peut-on espérer croiser l'homme au rire du canard évoqué lors d'un vieil épisode du podcast?
Je vois très bien quel épisode.
On peut le croiser à UGC Cinécité Léal.
Léal.
Et en général, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, il peut très bien voir un film, un télo...
C'est le striker caché, en fait. Le mec, il ne sait jamais quand il va apparaître.
Ah, je te jure, quand j'ai vu Fifty Shades of Grey avec lui... c'est quoi Il rigole comme un canard. Et moi, je te dis, ce mec, je suis prêt à le payer pour qu'il vienne à côté de moi.
Tu m'étonnes.
D'où vient la fascination de Cameron Boutix pour les pires comédies françaises? Un cœur de nanarophile ou bien il y a un peu d'amour au fond?
Oui, c'est vrai, qu'est-ce qui a lancé cette idée de toutes les voir, en fait?
Je crois que c'est une fois, j'ai vu une comédie et j'ai fait « Oh, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on nous vend là? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on est en train de essayer de faire à nos cerveaux ?» J'étais scandalisé par ce qu'on avait. Et du coup, je me suis dit bah, « Je vais les analyser, je vais essayer de comprendre. » À la manière d'un bouquin de Kessler qui s'appelle The Act of Creation, que j'adore, où il décompose complètement une blague. Mm-hmm. Genre, il explique pourquoi une blague est drôle, et il explique mathématiquement pourquoi une blague est drôle. C'est passionnant. Et ben là, je me suis dit, je vais m'expliquer au moins à moi à quoi ça rime toutes ces comédies. Et voilà pourquoi je me les enquille toutes depuis 7 ans. Et maintenant, grâce à MDR, j'ai une team de gens qui se relaient pour m'assister dans ce lourd défi.
Tu as des victimes qui t'accompagnent.
C'est des victimes, mais en même temps, ils sont heureux d'être là. Et je suis très content de faire MDR. Et puis, s'il y a de... J'ai de la tendresse pour une comédie qui est vraiment pas drôle, mais que tout d'un coup, il y a un gag qui va fonctionner, un seul. Parfois, on en est à ça.
Mais parfois, ça sauve le film.
Bah, ça sauve le film, et c'est pour ça que j'ai un peu de cœur pour celle-là. Sinon, je n'ai absolument pas de cœur pour ces deux. Il faut que ça soit bien.
Alors, il y a une question que je vais te montrer, qu'on va se garder pour la fin, je pense, celle-ci. Okay. Qui commence par « Pensez-vous ?»
Ah, d'accord.
Celle-là, je pense qu'on peut la garder pour la fin. Nous avons François Matt qui demande « Vos journées comptent-elles bien 24 heures comme les miennes ?» Là-dessus, je pense qu'on peut répondre oui, même si des fois, c'est compliqué. Mais surtout, comment s'est passée votre rencontre chez GK? Est-ce que tu veux raconter?
Non, toi. Moi qui raconte. Toi, qui raconte. Tu racontes mieux.
C'était à l'occasion des 10 ans de Gamekult. Le site avait invité les modos et tous les pigistes et évidemment la rédaction. Moi j'avais déjà rencontré la rédac parce qu'on avait déjà fait des bouffes, mais je n'avais jamais rencontré Daniel parce que toi t'étais pigiste, t'es toujours pigiste de toute façon pour le cas. Et on s'est en fait retrouvé sur une séquence de, alors c'était pas Just Dance, c'était Dance Central, le jeu de Harmonix sur Kinect. Donc sur 360 avec Kinect, et où on avait joué avec Nanark tous les trois, et t'avais débarqué, en plus t'avais des lunettes de soleil qui te donnaient une touche assez rock'n'roll.
J'avais une super conjonctivite en fait.
Ouais. Mais t'avais des lunettes de soleil façon K2000 un peu, j'avais trouvé ça génial. Et en fait on s'était bien marré sur Dance Central, et en fait le courant est super vite passé.
Ouais. Faut dire aussi que les autres c'était un peu des connards.
ça n'aide pas évidemment. Donc voilà, et ensuite ouais, on a discuté et puis on s'est rapproché.
Et là je pointe quelque chose du doigt. Tu vois ce qu'il y a sur mon bureau?
Et oui, je vois ton avatar dessiné, qui donc maintenant te représente sur le site.
Ouais, par Simon Hoth. Et qui est au-dessus de mon bureau, donc.
Voilà, il trône au-dessus du bureau, à côté d'un amiibo The Legend of Zelda.
Ouais, je suis désolé.
Un épisode que t'aimes pas, en plus.
Non, c'est surtout un autre truc, c'est que j'ai pas encore rangé ça, tout ça.
Ouais, ouais. Bah oui.
C'est ça le problème.
Oui, car j'aide Daniel à ranger ses vieux jeux, et je peux vous dire qu'il y a la matière.
Ouais, et puis t'es tombé sur un jeu, là, il y a pas longtemps.
Et Daniel m'a fort gentiment offert Final Fight CD, qui est le meilleur portage jamais du meilleur beat'em all jamais. Final Fight, mon jeu de cœur, et la version Mega CD était extraordinaire, avec des musiques CD formidables, et un jeu qui honnêtement, enfin, pour de la Mega Drive, c'est incroyable, c'est quasiment arcade perfect, tellement meilleur que le portage Super Nintendo qui est horrible, donc Final Fight CD pour toujours dans mon cœur. Merci Daniel, ce cadeau.
Je t'en prie, on va se mettre les musiques après.
Ouais.
Bon, tu pourras les musiques de fin.
Je mettrai les musiques en fond.
La musique de fin est super. Une question de Lord
Pedros. Encore 2-3 questions, je pense, et puis on va.
Ouais. Une question de Lord Pedros. Vos sensations sur les titres Rebirth de DC?
Bah moi j'ai lu que le Batman pour l'instant de Tom King.
De King et Fish.
Donc évidemment je n'ai pas pour l'instant et j'aime
beaucoup. I am Gotham.
Voilà, I am Gotham.
Et maintenant il est I am Bane.
Eh bien écoute, j'ai hâte, mais comme je l'ai lu en hardcover, moi je suis en retard, donc j'ai pas un avis global, mais pour l'instant j'aime bien.
J'ai lu une très grande partie de Rebirth, et alors il y a des trucs que j'adore. J'adore, et je pense que ça mériterait de faire une émission entière.
Ouais.
J'adore le Rebirth de Superman, est génial. Juste pour expliquer à Benjamin, en fait, Superman est mort, le Superman New 52 est mort.
Mais il y a un autre Superman.
Il y a un autre Superman qui était là pendant tous ces 5 ans. Il faut 6 ans que ça a duré. Il était planqué avec sa famille et son gosse.
Il plantait ses navets dans Animal Crossing.
Exactement, il était fermier, et il était caché. Et puis maintenant que l'autre Superman est mort, bah il s'est dit bah je reviens, et il s'est rasé, et il est revenu alors qu'il avait une grosse beubarde,
ouais,
de beau gosse. Batman donc c'est super. La surprise c'est que...
Imagine s'il était débraillé en t-shirt, c'est indigne de la fonction de Superman.
Exactement. La surprise c'est que Suicide Squad est drôle, est bien. Genre le comics Suicide Squad est...
Oui, j'ai eu très peur.
Le comics Suicide Squad est bien. Et il y a eu un crossover Suicide Squad Justice League qui était vraiment très bien.
D'accord.
Genre c'était la bonne surprise. Et pour moi, le meilleur comics de ce Rebirth, de loin, c'est Green Lanterns. Et alors, je me dis, prononce bien Green Lanterns avec un S, puisque c'est en fait, c'est pas du tout Green Lantern Hal Jordan. C'est deux autres Green Lanterns qui étaient des Green Lanterns apparus dans les New 52 et qui étaient très sous-exploités. Il y avait... j'ai un trou de mémoire sur les noms. Il s'appelle Baz. Le mec s'appelle Baz. Et il est musulman. Et la première fois qu'on l'a vu dans New 52, il s'est fait incarcérer pour terrorisme, alors qu'en fait, il venait juste que de voler une voiture. C'est la pire origine de tout ce que tu peux imaginer. C'était écrit un peu avec condescendance. Et ils en ont fait et là, le fait de Rebirth, ils en ont fait un personnage vraiment intéressant, qui est un Green Lantern paradoxal, qui est à la fois un Green Lantern et qui porte un gun, parce que il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe si jamais mes pouvoirs s'arrêtent? Et il est un peu angoissé, donc il a besoin d'avoir une arme à ses côtés. Et l'autre Green Lantern, ça a aussi très mal commencé pour elle, puisque elle a été prise par une bague maléfique, et qui littéralement, elle faisait d'elle une victime. Ses origines font d'elle une victime, en fait.
D'accord.
Puisque la bague lui disait, haha, tu vas être mauvaise, laisse-toi aller au côté obscur de la force, enfin, tu vois, ce genre de truc. Et elle passait son temps à résister, mais en fait... Elle était une putain de victime, quoi.
Ouais.
Et là, maintenant, elle s'est échappée de tout ça. Mais ce qui se passe dans Green Lantern, c'est que c'est le duo entre ces deux Green Lantern qui ont rien à voir ensemble, mais qui essayent d'apprendre à être Green Lantern. Et en plus, ils ont la même lanterne qui les recharge. Ils en ont qu'une seule pour deux. Ce qui fait qu'ils sont obligés de faire équipe ensemble. Et c'est vraiment très très bien écrit. C'est intéressant que ça soit deux minorités ensemble dans un même comics.
Ouais.
Et je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment, c'est la bonne surprise de ce relaunch.
D'accord.
Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de charme tous les deux. Green Lanterns avec un S. Je pense que c'est sub-publié en français. Si...
Ça va être chez Urban, comme d'hab.
Je suppute. Voilà, Green Lantern, c'est mon coup de cœur de ce Rebirth.
D'accord. Bon, on approche de la fin. Une petite question. Vous arrive-t-il encore souvent de jouer en multi dans la même pièce, ou préférez-vous peut-être les jeux en solo? Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en multi chez moi, ça n'arrive quasiment jamais. Par contre, quand je vais chez des amis où il y a le fameux vidéoprojecteur et la Wii U, là oui, on joue en multi, mais dans la même pièce la plupart du temps. Je joue rarement en multi online au final, à part quand c'est pour jouer à Street, mais je ne joue plus à Street 5 de toute façon, quoi qu'il arrive.
ou alors pour jouer à Quake, et dont je rate la close bêta, comme vous le savez. Donc, est-ce que je préfère les jeux solo? Bah, quand je suis chez moi, tranquille, dans le fond de mon canapé, généralement, oui, je préfère les jeux solo. Pour jouer en multi, je vais chez des amis. Et toi, Daniel, tu joues encore en multi dans la même pièce?
Bah, bientôt, avec toi. Je sais pas quel jeu on va on va trouver un jeu.
On va faire un jeu tout à l'heure. Mais sinon, à part ça, t'es plus jeu solo ou plus jeu multi, en fait? Ou jeu multi online?
Je suis assez jeu solo, en fait.
Jeu solo, ouais,
moi aussi. Mais de fait, quoi, c'est parce que...
Mais après, je dis ça, mais si Quake Champions est bien, je vais y passer des heures, tu vois, comme je passe des heures sur Quake Live ou comme j'ai passé des heures sur Team Fortress 2. Donc, j'ai pas... Ça dépend des périodes, je dirais. J'ai des périodes où je suis plus online et des périodes où je suis plus solo. Mais il faut vraiment qu'un titre, faut que j'ai un coup de cœur sur un titre, en fait. Écoute, je pense qu'on peut peut-être...
Attends, j'avais une dernière question.
Ben, on a une dernière question. Et en plus, on peut essayer de répondre de concert en même temps.
Oui, alors c'est pas la question de Gamera qui est quelle est la meilleure religion. Ça, on a décidé pas la réponse.
Celle-là, j'ai décidé no comment. Je ne pense pas qu'il y ait une
meilleure. Évidemment, religion. C'est le christianisme puisqu'ils ont imposé le calendrier.
Eh bien, écoute, je suis responsable de ces propos, Daniel.
C'est une blague de Louis C.K. dont le spectacle. Et maintenant qu'on a vu en live l'année dernière, justement, avec Henri Michel, est disponible sur Netflix depuis hier. Si vous avez les possibilités de mettre hors d'état de nuire définitivement et pacifiquement Morandini ou Durandal, lequel choisissez-vous? C'est encore Gamera qui est très taquin. Moi, je choisis quand même Morandini parce qu'on n'a pas réussi l'année dernière quand même.
Et justement, il y a une autre question de Praydon, je crois, Praydon Ness, je ne sais jamais comment ça se prononce.
Le camarade aussi.
Qui est aussi, voilà, un auditeur fidèle, qui demande quel est l'épisode ayant le plus de succès, et c'est justement le Morandini.
Ouais, le Morandini,
a eu un succès fou, parce que apparemment la Morandinosphère, a dû tomber dessus par accident, je pense. Oui, ils ont peut-être pas écouté longtemps. Je n'en sais rien, mais je saurais pas dire combien il a eu d'écoute exactement, parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est celui qui a le plus marché.
Ouais, proportionnellement par rapport à l'existence d'After Eight.
Ouais.
Je pense que maintenant.
Même en valeur absolue, je pense. Je pense
qu'aujourd'hui, maintenant, n'importe quel épisode marche mieux,
pas,
mais.
J'ai pas les chiffres.
Et
sinon, moi, je me débarrasse de Durandal, comme ça, on dégage les deux.
De quoi?
Okay. Je prends Durandal.
Moi, j'ai rien que Durandal. Je veux dire, tant que je ne tombe pas sur cette vidéo, tout va bien. Des nouveaux guests à prévoir. Oui, je pense à Stéphane Boulet.
plus sérieusement, j'aimerais beaucoup, il y a plein de personnes que j'aimerais bien inviter.
Ouais, on aimerait bien que pour la deuxième année de After Eight, on ait plus d'invités.
Au niveau calendrier, parfois c'est dur.
Et parce que l'enregistrement, en fait, les horaires à quels on enregistre. Voilà. Mais en fait, on a pas mal d'artistes, en fait, qui nous écoutent et parfois nous disent, on voudrait vous avoir, ça serait cool. Et justement, nous, on leur dit, oh, putain, on aimerait bien. Mm. Donc, si on arrive à s'étendre et After Eight un peu...
Le plus dur, c'est vraiment d'arriver à scaler un horaire qui marche pour tout le monde.
En gros, muscler notre jeu, comme on dit dans le football. voilà, nous, on aimerait bien avoir plus de guests et d'invités.
J'aimerais avoir des filles aussi, parce qu'on fait souvent des trucs entre mecs. Pour changer un peu, quoi. On a déjà des idées.
C'est pas ce que tu disais tout à l'heure.
et est-ce que on termine?
Vas-y.
Avec la question de Stéphane, @scatali sur Twitter. Pensez-vous que Fillon doit rendre l'argent? Ben moi, je dis François, rend l'argent.
Je ne sais pas qui c'est. Oui, on a eu quand même quelques questions sur est-ce que vous allez parler de la politique.
J'ai pas arrêté d'en parler depuis que je suis arrivé. J'en ai même parlé encore à midi là. Ça me saoule.
Le problème, c'est que c'est compliqué d'être rigolo avec la politique. On avait fait ça dans un tout premier épisode où on avait comparé à Game of Thrones et ça avait plutôt bien marché parce qu'on était hors saison, on était hors compétition
j'ai vu un truc sur Twitter qui a tourné où on comparait les hommes politiques à des JRPG et j'ai trouvé ça plutôt drôle, je sais pas si tu l'as vu passer, c'était assez marrant. J'ai live tweeté le débat à 11 parce qu'il y avait des trucs quand même qui étaient il y a eu des trucs très
moi je me suis endormi passé. Pas endormi mais j'avais mon ouais, j'avais du mal à suivre, moi, quand même.
Et je dois avouer que, à chaque fois que Jean Lassalle était là, mes chers compatriotes, je viens de boire une petite poire, c'était...
Voilà. Le problème, c'est que si on parle de politique, on va en parler comme ça.
Voilà.
Je sais pas si ça amuserait quelqu'un d'autre que nous. On préfère parler de choses plus rigolotes. Ou ce qu'on verra pour les prochaines émissions. Par exemple, j'aimerais en apprendre plus sur vous. Quick so States, depuis quand? Et pourquoi, Daniel, les origines russes?
Pourquoi t'as des origines russes?
Je ne sais pas. J'espère mener l'enquête à bien. La passion du Japon vaut pas grande. On aura toute l'occasion de revenir au fur et à mesure de l'année.
Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, Essayez plutôt de causer à mes burnes.
Est-ce que t'as une reco?
Oui, j'ai une reco. Comme j'ai entendu Stéphane Boulet recommander un jeu de plateau, je me suis dit, mais oui, excellente idée Stéphane Boulet. On devrait l'inviter plus souvent, ce gars-là. Je vais recommander un jeu qui s'appelle Secret Hitler.
What?
Et oui, c'est un jeu qui a été kickstarté.
Je connais Secret Girls, mais pas Secret Hitler.
Et Secret Hitler, c'est un jeu qui est un peu dans la veine de Mafia ou du Loup-Garou, où c'est un jeu à identité secrète. Ça peut rappeler aussi Bang, pour les gens qui connaissent, un jeu qui s'appelait apparemment Wanted, et je pense qu'ils ont eu un problème de copyright. Donc c'est un jeu à identité secrète. Au début du jeu, on a une carte qui dit, voilà, vous êtes tel personnage. Donc en fait, vous pouvez être soit un démocrate, soit un fasciste. Et si vous êtes un fasciste, vous pouvez aussi être Hitler. Et le but du jeu pour les fascistes...
Parce que démocrate Hitler, non.
Non. Et le but du jeu pour les fascistes est soit de se débarrasser de tous les démocrates, soit d'arriver à faire passer 6 lois fascistes, je crois. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je peux me gourer sur les règles, mais en gros, le pitch, c'est ça.
Parce qu'il y a des règles dans le fascisme.
Il y a des règles du jeu, en tout cas.
C'est super bizarre.
Et l'objectif pour les démocrates, c'est de flinguer Hitler. Et comment ça se passe? À chaque tour, on essaie de faire passer une loi, et donc la loi peut être soit fasciste, soit démocrate. Et comment ça se passe? On donne 3 cartes à une personne qui est le vice-chancelier, qui de son côté va donner 2 cartes au chancelier, et le chancelier tourne à chaque tour et désigne un vice-chancelier. Et ensuite, il y a une carte qui est posée sur la table du jeu, et on sait quelle carte c'est. On sait si c'est une carte fasciste ou une carte démocrate. Les 2 autres cartes ont été éliminées, on ne sait pas. Seul le vice-chancelier et le chancelier savent. Et donc, il y a des discussions, genre, mais là, t'as posé une carte fasciste, si t'es un démocrate, est-ce que ça veut dire que t'avais 3 cartes fascistes qui t'ont été proposées? C'est des cartes qui sont tirées au hasard. Et en fonction de la persuasion et d'une certaine logique de ce qui a pu être posé, t'arrives à déduire si telle personne est fasciste, si telle personne est démocrate et si telle personne est Hitler. Et tu as le droit à un moment de flinguer des gens.
C'est génial le deuxième degré.
Donc, écoutez, j'ai très mal expliqué, mais...
Non, mais c'est assez fascinant.
Faites-en une partie, vous allez voir, c'est très drôle. C'est en gros, s'il y a des gens par exemple qui ont déjà joué au Loup-Garou et qui ont trouvé que c'était chiant parce que déjà c'est interminable, c'est long, et en plus quand on se fait crever au début, bah ensuite on fait plus rien pendant 45 minutes. Secret Hitler, c'est des parties qui sont assez rapides, généralement ça dure 20 minutes, et on se marre vraiment bien. C'est vraiment très drôle, et en plus, bon, traiter ses amis de nazis, ça a toujours un petit côté cocasse.
Moi, ça me rappelle la Savoie.
Ça me rappelle ma jeunesse. Non, c'est un très chouette jeu, Secret Hitler, c'est très drôle, et honnêtement, je pense pas qu'on puisse passer un mauvais moment quand on y joue. Voilà. Bah, toi, Daniel, ta reco.
Ma reco, c'est un comics, c'est Captain America Steve Rogers.
Salut les nazis.
Et bah, justement. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que Steve Rogers, en fait...
C'est une thématique. Un peu.
Par le miracle de la magie, le miracle de la magie Marvel, a été retconné comme un nazi. Ou pas comme un nazi exactement, comme un agent de Hydra. Et donc, c'est à partir du numéro 1, donc ça a commencé au numéro 1 de Captain America Steve Rogers. Tout d'un coup, le choc, c'est que Steve Rogers arrive et fait « Heil Hydra ». Et évidemment, tout l'Internet, c'est rebellé, enfin pas tout l'internet, en tout cas tous ceux qui sont toujours prompts à protester contre tout, et en disant mais quel scandale, Captain America c'est le héros de mon enfance, c'est un mec qui a donné un coup de poing à Hitler, comment osez-vous faire ça, je vais plus jamais lire de comics Marvel, enfin vraiment ils sont tous tombés à bras raccourcis, enfin vraiment sur la base d'un seul numéro quoi, et en fait l'arc est passionnant en fait. Parce que du coup, Captain America, en fait, ses origines ont été réécrites magiquement. Donc, il a eu des amis d'enfance différents. Il a eu d'enfance différente. Et donc, on apprend où est-ce que le mal est rentré dans sa vie. C'est assez fascinant. C'est un peu Captain America meets Haneke.
D'accord.
C'est très très bizarre. Et c'est fascinant à la fois. Et je trouve que je ne sais pas dans quelle direction ils vont. Il prépare un gros crossover où en fait Captain America va devenir le méchant du monde Marvel.
Ouais.
Et l'idée m'intéresse en fait.
Mais pour toujours ou...
Bah non, tu sais, c'est le monde Marvel, l'univers a été détruit, pousse, on réécrit tout.
Mais je crois qu'une partie des critiques c'était aussi que c'est évident qu'il va pas être nazi éternellement et que,
oui.
Et que ça fait un peu
mais comme...
un tour de passe-passe à la con et que... Était-ce vraiment la meilleure époque pour faire d'un symbole pareil un nazi, en fait?
Bah, au contraire, ce qui est intéressant, c'est que quand il est intronisé chef du SHIELD, ça s'est produit la même semaine que l'élection de Trump.
Bah ouais.
Et il y avait de clairs parallèles au moment où il a prêté serment au SHIELD. Mmh. C'est la même semaine où Trump faisait son prêtage de serment. Donc, tous les deux sous la pluie, sauf pour Trump, bien sûr, où il pleuvait pas. et c'était vraiment très particulier. Est-ce que c'est la meilleure période? Non, mais il n'y a jamais de mauvaise période pour écrire de bons comics. Oui. Et pour l'instant, Captain America, Steve Rogers, c'est passionnant. Et il est intéressant de lire en même temps Captain America, Sam Wilson, donc, qui est Falcon, son ami. Et c'est aussi le mec qui porte en ce moment le bouclier de Captain America. Il est un autre Captain America, c'est exactement ça. Et lui, il est street level, il est en ce moment en train de protéger des gars qui se font tabasser dans les rues, des noirs évidemment, ouais, par la brutalité policière. Donc il y a vraiment un vrai contexte politique intéressant à lire Captain America, les deux titres Captain America en ce moment. C'est vraiment passionnant, et la manière dont ils vont s'imbriquer dans le monde Marvel va être passionnante.
Parce qu'une polémique liée à ça, c'est que justement il y a eu une récupération de Captain America par l'extrême droite américaine, et qu'on voit à l'heure actuelle, alors c'est pas la faute du comics, mais c'est un effet de bord, on voit à l'heure actuelle des affiches avec un Captain America avec un insigne nazi sur son bouclier et qui arrête des missiles avec marqué immigration, mais Mexique dessus.
Le truc, c'est que Captain America, et ça fait pas partie évidemment du personnage tel qu'il est, enfin humaniste, non violent aussi, puisque c'est le paradoxe d'un militaire qui se bat avec un bouclier.
Ouais.
Faut pas oublier qu'il se bat avec une arme de défensive, quoi.
Ouais.
Et on peut récupérer Captain America pour faire n'importe quoi. C'est le paradoxe de tous ces mecs-là. Mais moi, le premier comics Captain America que j'ai vu, que j'ai lu de ma vie, j'étais gamin, il avait une croix gammée à la place de l'étoile sur son bouclier, et il s'était fait hypnotiser par Dr. Faustus, tu vois.
Ouais.
Donc, oui, mais je savais déjà à l'époque que il